Abel Meola est un petit village dans la vallée du Jourdain. Ce village se trouve environ à 25 km au sud du lac de Galilée. C'est un petit village typique des pays méditerranéens. En fait, ce sont toutes des petites maisons au toit plat, des petites maisons blanchies à la chaux, qui sont toutes rassemblées sur le sommet d'une colline. Autour de ces maisons, on a construit un petit mur de terre pour essayer de protéger un peu le village. Il y a des portes que l'on ferme le soir. De loin, on le voit, ce petit village. Il est perché sur cette colline. Il est tout blanc. Et les gens vivent heureux dans cet endroit. À l'est, ce sont des pâturages, ce sont des champs qui vont vers le Jourdain. Et au-delà du Jourdain, ce sont les montagnes de Galaad. De l'autre côté, ce sont des collines qui montent gentiment vers Samarie et qui conduisent vers le mont Ebal et Garizim. C'est là que se trouve Abel Meola. Le nom de ce village signifie « le champ, le pré de la danse ». Et c'est un beau nom pour ce village. En effet, on est au printemps. Les champs mûrissent, les arbres donnent leurs fruits. Il fait beau, la nature est paisible. La nature retrouve la vie. Les gens aussi, ils reblanchissent leurs maisons. Les brebis mettent bas. C'est le moment où les troupeaux grandissent. Il y a des agneaux et des petits partout. Le Jourdain, lui, est gros, des eaux qui descendent des montagnes du nord. De loin, on entend le bruit de la rivière qui descend vers la mer morte. Et Abel Meola porte bien son nom, le pré de la danse. Mais alors que le printemps est en train de répandre partout une atmosphère de gaieté dans la région, il y a une inquiétude dans la population d'Israël à ce moment-là. En fait, il n'y a plus de prophète. Ésaïe est mort depuis plusieurs années déjà. Et Élisée est mort, justement, l'année précédente. Le peuple se sent comme un peu orphelin. Pourtant, lorsque les prophètes étaient là, ils n'écoutaient pas davantage les prophètes, ni ce que les prophètes disaient de la part du Seigneur. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, ils se sentent un peu perdus, tout seuls. D'autant plus que cette région-là n'est plus vraiment sous le contrôle du roi d'Israël comme elle devrait l'être. En réalité, les Moabites, qui viennent des montagnes de Galaad à l'est, ont pris comme le contrôle de cette région, pas officiellement, mais en réalité, ils imposent un peu leur loi parce qu'ils sont les plus forts dans cet endroit pour le moment. Régulièrement, ils viennent, ils font des descentes dans les villages, dans les villes, et ils prennent tout ce qui les intéresse. Le printemps qui vient, c'est le moment précisément où par bandes de plusieurs montés sur des chevaux, ils descendent, ils vont dans les villes, dans les villages, ils prennent justement les premiers fruits des récoltes qui commencent tout juste à arriver. Ils capturent les agneaux, les petits animaux qui viennent de naître dans les troupeaux. Ils prennent l'outillage, ils tuent des gens qui les dérangent sur le chemin, ils prennent des esclaves et ils s'en vont. Et le peuple d'Israël se sent déstabilisé. Ils ont peur, ils vivent dans la crainte. C'est l'insécurité en réalité dans le pays, c'est le découragement. Et avec ce découragement vient aussi un déclin spirituel. Dans ce village de Abel Meola, au printemps, on devrait être joyeux. La nature se réveille, il fait beau, cette contrée est verte. Et pourtant dans ce village, aujourd'hui, c'est le deuil. C'est le deuil parce que l'un des villageois dont nous ne connaissons pas le nom, est décédé quelques jours avant. Et c'est aujourd'hui que l'on va l'enterrer. Si vous regardez ce village depuis le cimetière, vous le voyez perché en haut de sa colline, les maisons toutes blanches au soleil, le ciel bleu, les prés verts, une belle journée. Et tout le village va se rassembler à la porte, juste à l'extérieur de la porte. En fait, on n'ose pas aller beaucoup plus loin parce que c'est dangereux de se promener dans la campagne à cette époque-là. Et du village, on va voir sortir un triste cortège. Très court ce cortège. En fait, quatre hommes portent un brancard et sur ce brancard se trouve le corps de celui qui est décédé. Il n'est pas dans un cercueil. Il est simplement emballé dans un linceul blanc et on voit sa forme raidie sur le brancard. Ces hommes vont descendre lentement le chemin qui va du village vers le fond de la vallée pour aller au cimetière qui est en bas, dans le creux. Au village, on pleure, on crie, on se lamente. Mais les gens vont rester à la porte. Seuls les quatre hommes vont descendre lentement vers le cimetière. Ils vont arriver au cimetière, ils vont poser le brancard et commencer à creuser la tombe. Ils creusent et évidemment, à ce moment-là, quelqu'un dans le village donne l'alarme. Il a vu derrière les collines, au loin, une bande de Moabites venir à cheval. Il donne l'alarme. Pour les quatre croque-morts qui sont là en train de creuser le trou, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire décision immédiate et action rapide. Comme pris de panique, les gens qui s'étaient rassemblés à la porte du village rentrent tous dans le village. Les quatre hommes qui sont là prennent la première pierre tombale qu'ils trouvent, ils la poussent, ils prennent le corps raidi de leur ami défunt et le laissent tomber dans le trou. Et ils se sauvent en courant. Ils remontent le chemin qui va au village pour arriver au village et rentrer avant qu'on ferme les portes du village. L'un d'entre eux peut être un peu plus pesant, peut-être qu'il a traîné derrière, a de la difficulté à monter la côte, mais il entend du bruit derrière lui. Il se retourne et il voit derrière lui, en train de courir, encore plus ou moins emballé dans son linceul, le mort qu'ils ont jeté dans le trou juste quelques instants avant. Maintenant, n'oubliez pas, ces gens croient aux fantômes. Cet homme qui n'arrivait pas à avancer, tout d'un coup, avance comme une flèche, monte vers le village, crie à ses amis, « Hé, les gars, vous n'avez aucune idée qui nous poursuit maintenant !» Et quand les autres se retournent, ils voient cette espèce de fantôme blanc qui court derrière eux et vient au village. Et tout le monde rentre au village. Rideau, l'histoire s'arrête là. J'aimerais connaître la suite de l'histoire. Elle ne nous est pas donnée dans les Écritures. Elle s'arrête là. Vous pourrez la lire dans le deuxième livre des Rois au chapitre 13. Une petite histoire qui contient de grandes vérités. En fait, ils avaient poussé la pierre tombale du prophète Élisée. Élisée avait été enterré là l'année d'avant. Ils avaient simplement laissé tomber dans sa tombe le corps de cet homme défunt. Et nous dit le texte, en touchant les os d'Élisée, cet homme est revenu à la vie. Imaginez la surprise de cet homme debout dans la tombe d'Élisée, voyant ses amis qui courent au village. Lui ne sait pas ce qui se passe. Il sort de cette tombe et court avec eux. Il y a probablement eu quelques explications en arrivant au village. J'aimerais les connaître. Il nous faudra attendre que le Seigneur revienne et nous donne la suite de cette histoire, de cette courte histoire qui nous est rapportée en plein milieu de l'Ancien Testament. Mais cette histoire est une parabole aussi de notre vie et de notre expérience aux uns et aux autres. Parce qu'effectivement, il est des moments où nous vivons les uns et les autres du découragement. Nous vivons avec le sentiment d'avoir été pris comme otage par les circonstances de la vie. C'est la maladie pour certains, c'est le surmenage par d'autres, c'est l'échec à l'école, c'est les difficultés au travail, c'est la perte d'un travail, c'est des relations difficiles, ce sont des problèmes financiers. Et la liste, vous pouvez la continuer vous-même, vous la connaissez encore bien mieux que moi. Nous nous sentons comme prisonniers de ces multiples circonstances et qui nous gardent les uns et les autres dans la morosité. Comment avancer? Nous voudrions voir le miracle venir à nous et nous prions le Seigneur de faire quelque chose pour que ces situations se résolvent. L'histoire d'aujourd'hui nous interpelle et nous dit « Le miracle, il n'est pas devant. Le plus grand miracle, il est derrière. » Et il nous faut parfois nous retourner pour voir le grand miracle. Le miracle, il n'est pas devant, il est derrière. Il vous est sans doute arrivé, comme à moi, de vous trouver dans des difficultés, de demander à Dieu de résoudre ces difficultés, de faire quelque chose pour qu'on puisse en sortir. Et le temps passe et vous vous demandez si le Seigneur a oublié qu'il a l'habitude d'accomplir ses promesses. Et lorsque finalement, après un long temps, il y a un dénouement à cette situation, vous découvrez qu'en réalité le Seigneur y a travaillé depuis longtemps sans que vous le sachiez. Et maintenant que ce problème est résolu, vous êtes honteux d'avoir pensé ce que vous avez pensé vis-à-vis de Dieu. En fait, sans que vous le sachiez, il agissait déjà. Le miracle était derrière. Mais encore, il y a un bien plus grand miracle derrière. Nous qui sommes enfants de Dieu, le grand miracle, il est dans notre dos, il n'est pas devant. Le grand miracle, c'est celui qui s'est passé le jour où, comprenant notre état, nous avons accepté que Jésus soit notre sauveur personnel et nous nous sommes abandonnés à lui. C'est là le grand miracle, celui de la repentance et de la conversion. Le grand miracle, le plus grand miracle, il est derrière. Et c'est peut-être parce que nous avons oublié ce miracle que Dieu a fait dans le passé que nous avons du mal à comprendre ce qui se passe dans le présent, que nous avons du mal à comprendre ce que Dieu veut faire dans l'avenir. Mais le plus grand miracle, il est derrière. Nous avons parfois besoin de nous retourner pour voir le miracle. Certains d'entre nous ont grandi dans l'Église et lorsqu'on leur demande « Quand est-ce que tu as vécu ta conversion ?», ils sont embarrassés pour répondre parce que ils ne peuvent pas faire comme l'apôtre Paul qui donne une date. L'apôtre Paul s'en souvient, il est tombé de son cheval ce jour-là. Mais certains d'entre nous ont vécu leur conversion comme quelque chose de progressif, au fur et à mesure du temps. Et ils sont incapables de mettre une date, un jour, une heure, comme certains d'entre nous peuvent le faire. C'est un peu comme un lever de soleil. Si vous regardez le soleil qui se lève, vous ne le voyez pas qui bouge, vous voyez cette forme qui dépasse l'horizon. Si vous le fixez avec les yeux, vous ne le voyez pas qui bouge, mais détournez simplement vos regards un moment, puis regardez à nouveau et vous verrez que le soleil est beaucoup plus gros sur l'horizon. C'est souvent en se dépréoccupant de ces difficultés de nous-mêmes que nous voyons là où Dieu a agi, lentement, dans notre expérience passée. Mais il a agi, pour les uns d'une manière, pour les autres d'une autre. L'apôtre Paul, d'ailleurs, a vécu semblable expérience. Pris par la souffrance, démoralisé par les limites que cette souffrance mettait dans son ministère, l'apôtre Paul a demandé à Dieu, avec insistance et à plusieurs reprises, de le délivrer de cette écharde qu'il avait dans la chair, comme il l'exprime dans 2 Corinthiens. Réponse de Dieu, le miracle, tu l'as déjà eu, il est derrière toi. Le plus grand miracle s'est déjà réalisé dans ta vie. Et si vous lisez le texte, Dieu lui répond en lui disant « Ma grâce te suffit ». Et cette grâce suffisante, c'est celle qu'il a reçue le jour de sa conversion, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est là le grand miracle de sa vie. Et Dieu lui dit « Cette grâce que tu as reçue, parce que cette grâce-là va te permettre de traverser toutes les difficultés du chemin. Le plus grand miracle, il a déjà eu lieu pour toi. » Saint Augustin, d'ailleurs, exprimait cette idée en disant « Notre cœur n'a de repos que du repos, Seigneur, qu'il trouve en toi. » Les gens de ce village d'Abel Meola, comme ceux de la région d'ailleurs et du peuple d'Israël, se demandaient d'ailleurs si Dieu n'était pas mort en même temps que son prophète Élisée l'année d'avant. Dieu agissait par Élisée, et même s'ils n'aimaient pas tout ce qu'Élisée faisait ou tout ce qu'Élisée disait, ils avaient au moins l'impression que par Élisée, Dieu agissait. Mais maintenant qu'Élisée n'est plus là, ils avaient l'impression que Dieu non plus n'était plus là, que Dieu était parti. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, encore une fois, paradoxe des Écritures, que la plus grande puissance se trouvait dans leur cimetière, la puissance de la résurrection. Encore une fois, dans cette histoire, le prophète est ici une image de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, nous invite à mourir avec Christ. Regardez avec moi ce texte de l'Épître aux Galates que vous connaissez bien, au chapitre 2. Le verset 20 dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Crucifié avec Christ. Cet homme dont nous ignorons le nom, villageois d'Abel Meola, n'a trouvé la vie que dans la mesure où on l'a mis dans la tombe. Curieux paradoxe de l'Évangile. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 4, nous retrouvons la même idée encore en rapport avec notre expérience spirituelle. Épître aux Romains, chapitre 6, au verset 4, nous lisons ceci. « Nous avons donc été ensevelis avec lui, parlant de Christ, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'expérience du baptême, dit l'apôtre Paul, c'est comme si nous avions été ensevelis avec lui. C'est parce que cet homme a été enseveli qu'il a retrouvé la vie au contact de celui qu'il avait reçu de Dieu. De la même manière, finalement, nous sommes invités à garder ce contact avec celui qui a la vie, mais qui est mort pour nous. Garder le contact proche avec Jésus. Cependant, nous devons reconnaître, en regardant dans notre existence, que nous sommes parfois des morts spirituels. Permettez que je vous lise ce paragraphe écrit par Ellen White dans le livre des témoignages. Plusieurs qui écoutent les vérités de Dieu avec complaisance sont morts spirituellement tout en prétendant être vivants. Pendant des années, ils sont venus à nos assemblées, mais ils semblent de moins en moins sensibles à la valeur des vérités révélées. Ils n'ont pas faim et soif de justice. Ils ne sont pas passionnés par les choses spirituelles et divines. Ils acquiescent à la vérité, mais ne sont pas transformés par elle. Des morts spirituels qui se font passer pour des vivants. Alors, quelle est la solution? La solution est fort simple. Mourir avec Christ. Garder ce proche contact avec le Christ pour qu'il nous donne la vie dont il est le propriétaire. C'est en réalité le sens de cette vision que Ézéchiel a reçue, une vision étrange qui nous est rapportée dans son livre au chapitre 37. Et je vous invite à vous y reporter avec moi dans Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel reçoit une vision curieuse où il voit dans une vallée un nombre incalculable d'ossements séchés. Et Dieu lui demande, « Penses-tu que ces os puissent revivre ?» Et le prophète dans cette vision dit à Dieu, « Seul tu sais s'ils peuvent revivre, mais humainement parlant, il n'a pas l'impression que ce cimetière à ciel ouvert sera un jour vivant. » Alors Dieu lui dit, « Prophétise, prophétise et je vais agir. Je vais mettre des muscles, je vais mettre des nerfs, je vais mettre de la peau autour de ces os. Et je vais mettre mon esprit et ils seront vivants. » Et dans sa vision toujours, Ézéchiel va prophétiser. Regardez par exemple le verset 4. Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître en vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Le texte dit ici, je mettrai en vous un esprit. Et le mot qui est employé, c'est le même qui est employé dans la Genèse lorsqu'il est parlé du souffle de vie que Dieu donne à l'homme lors de la création. Et effectivement, les os se rassemblent, la chair se forme, les nerfs se forment, la peau les couvre, et voilà, ce sont des corps. Mais le prophète est frustré parce que ce sont des corps, mais ils ne sont pas encore en vie. Alors Dieu lui dit, mais prophétise encore, c'est au verset 9. Il me dit, « Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Et ils vivent. Et le prophète dit, « C'est une armée nombreuse, une armée très nombreuse. » C'est, nous dit le texte, le peuple de Dieu. Et il nous faut là réaliser que le peuple de Dieu est d'abord symbolisé par un immense tas d'ossements secs. Est-ce possible que le peuple de Dieu puisse être simplement des ossements secs? C'est vrai que nous avons parfois l'impression d'être desséchés par les difficultés de la vie, difficultés par les stress que le diable met sur notre chemin, et nous voudrions retrouver cette fraîcheur de la vie que le Seigneur nous donne. Elle est ici promise. Mais ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce que veut dire cette action de Dieu, cette action recréatrice de Dieu qui va faire de ses ossements des êtres vivants, solides, debout. Il le dit à la fin de cette vision où il est écrit au verset 14, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Cette action de Dieu par laquelle il va redonner vie à ses ossements, quelle est-elle? C'est restaurer l'espérance, la bienheureuse espérance de la terre promise. Pour ici, pour ce peuple, la restauration dans Canaan, mais pour nous qui vivons à la fin des temps, comment Dieu va-t-il redonner vie à nos eaux desséchées en ravivant par son esprit la glorieuse espérance, celle du retour de Jésus, celle de la vie éternelle? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous découvrons que les patriarches vivaient déjà de cette espérance-là. L'espérance était déjà le carburant de leur vie spirituelle. Regardez au chapitre 11, au verset 13, par exemple. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Et un peu plus loin, au verset 16, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Déjà, les patriarches, il y a longtemps, vivaient de cette espérance glorieuse du retour de Jésus et de la vie éternelle. C'était la motivation de leur vie, de leur relation avec Dieu, de leur action et de leur marche de foi quotidiennement. Tout le chapitre 11 nous rappelle que ces gens ont avancé avec foi dans leur vie chrétienne parce qu'ils avaient cette espérance. Et ce qu'ils ne voyaient pas de leurs yeux, ils le voyaient par les yeux de la foi, sachant que Dieu répond toujours à ses promesses. Le texte nous dit « Ils sont morts sans avoir vu, reçu la récompense. » Mais c'est comme s'ils l'avaient déjà, parce que par la foi, ils vivaient quotidiennement, pris par cette glorieuse et bienheureuse espérance qui était la leur. Et je pense à nous qui vivons à la fin des temps, est-il possible que cette bienheureuse espérance, que cette perspective du retour de Jésus, que ce grand panorama du plan du salut qui est sur le point de s'achever, ne soit plus pour nous la motivation de notre action et de notre foi au quotidien? Est-ce que nous sommes aussi desséchés de cette manière-là, faute de vision? La première vision d'Ellen White touchait précisément ce point. Permettez que je vous lise un ou deux paragraphes tirés du livre « Premiers écrits ». Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournai pour voir mes frères adventistes rester en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors « Regarde encore, mais regarde plus haut ». Je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Cité Sainte. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider, et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. Mais bientôt quelques-uns se lassèrent et dirent que la cité était encore fort éloignée et qu'ils avaient pensé y arriver plus tôt. Alors Jésus les encouragea en levant son bras droit glorieux d'où émanait une lumière qui se répandit sur les adventistes. Ceux-ci s'écrièrent « Alléluia !» Mais certains d'entre eux repoussèrent effrontément cette lumière en disant que ce n'était pas de Dieu qu'elle venait. La lumière qui était derrière eux finit par s'éteindre et ils se trouvèrent dans les plus profondes ténèbres. Ils trébuchèrent, perdirent de vue le but, perdirent de vue Jésus, puis tombèrent du sentier et sombrèrent dans le monde méchant qui était au-dessous. Des eaux desséchées, des morts spirituelles. Mais pour tout cela se trouve dans ce passage cette glorieuse espérance rappelée, cette promesse. Cette lumière éclairait dans toute sa longueur le sentier pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. J'aimerais que cette expérience soit la nôtre à chacun qu'au-delà des difficultés que nous rencontrons tous les uns et les autres, cette glorieuse espérance du prochain retour de Jésus reste la motivation suprême qui nous permette de remettre les choses dans leur bonne perspective et de ne pas nous sentir pris en otage par la bande de Moabites qui sans cesse vient faire des méfaits dans notre existence. Que le Seigneur nous aide et qu'en regardant à Jésus, sa lumière brille sur notre sentier entièrement. Amen.